Merci d'être avec nous. On est en osmose et osmose, bah, pendant le mois de juillet, c'est la web radio du Off au Novotel Avignon Centre. Vous pouvez venir nous rendre visite si vous le voulez. C'est boulevard Saint-Roch. Nous retrouver sur www.osmose-radio.fr pour tous les podcasts des émissions, sur Facebook pour les vidéos et sur Instagram aussi. J'ai le plaisir de recevoir Xavier Béja. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Et Michel Cochet.
Bonjour. Bonjour.
Comédien, metteur en scène.
Absolument.
Du voilà. Spectacle Jean Zay, l'homme complet que l'on retrouve à l'épicène tous les jours à 11h40, sauf le lundi. Jean Zay, franchement, très peu de gens connaissent, alors que c'est un grand, grand monsieur. Quelqu'un peut... Michel ou Xavier, nous le présenter en quelques
J'ai
mots.
La primeur. Alors, je précise que Xavier a fait l'adaptation de l'ouvrage de Jean Zay, puisque c'est le texte du spectacle. Ça s'appelle Souvenirs et solitude. C'est son récit de captivité. C'est l'ouvrage, en fait, tout ce qu'il a écrit en prison pendant sa captivité à la prison de Rion. De fin 1940 jusqu'à 1944. Voilà, mais ça ne vous présente pas l'homme. En fait... Jean Zay, ça a été une des principales figures du Front populaire, ministre à 32 ans, appelé par Léon Blum, pour être ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, puisque les deux ministères à l'époque étaient réunis. C'est un homme qui, en fait, a réformé, on va dire, l'Éducation nationale, en tout cas a posé les bases d'institutions qui sont encore aujourd'hui en place et qui sont... parmi les institutions phares, la Ve République, on va dire. Donc pour l'éducation nationale, il a allonger l'âge de la scolarité à 14 ans. Il a inventé, on va dire, un peu l'éducation populaire. Il a créé les grands lycées de Paris. Il a inventé, on va dire, la notion d'éducation en plein air, puisqu'il a fait sortir les élèves des classes pour leur permettre de faire du sport, etc., etc. Son héritage est immense. Je pense qu'il devait pondre une réforme chaque matin. C'est et la plupart, ouais. Ah oui, c'est un homme extrêmement prodigue et qui a, tout ce qu'il a fait est quasiment resté. Après, il a fait plein d'autres choses. Il a créé l'ENA, par exemple, l'école d'administration. Il a créé le CNRS, puisque dans son ministère était aussi la recherche. Et au niveau des Beaux-Arts, il a énormément fait pour le théâtre populaire, le cartel légendaire Gaston Batty, Louis Jouvet, Charles Dullin, etc. Bien, lui doivent beaucoup, énormément. Il a, surtout ce qu'on ne sait pas... créé le Festival de Cannes. En fait, il a imaginé la première édition en septembre 1939, qui hélas n'a jamais eu lieu. Donc on lui doit ça aussi, et je dois en oublier parce que...
Oui, tu peux compliquer la vie. Le CV est bien rempli.
C'est énorme. Donc en fait, c'était quelqu'un qui avait la carrure vraiment d'un grand chef d'État et qui a incarné tout ce que le régime de Vichy pouvait détester, en l'occurrence homme de gauche, ayant participé au gouvernement de la République, puisque le régime de Vichy était fondamentalement anti-républicain, gouvernement de gauche, franc-maçon et juif par son père. Et il a fait l'objet, avant la guerre, d'une campagne antisémite particulièrement féroce.
Mais il a fini en prison quand même.
Donc il a été incarcéré, mis en prison, je la fais courte, en 1940, suite à un procès mascarade. Et il a écopé, pour dire la haine que lui vouait le régime de Vichy, il a écopé la même condamnation en fait que Dreyfus à son époque, qui n'avait jamais été prononcée depuis, qui était la déportation et la dégradation militaire. Voilà. Il n'a pas finalement été déporté. Il a, en partie à cause du blocus atlantique, qui n'a pas permis, puisque traverser l'Atlantique était finalement dangereux pour les forces allié des nazis, et donc il a été transféré dans la fameuse prison de Rion, qui est près de Vichy, où ont été incarcérés aussi de l'aide de Tassigny, Léon Blum, etc., etc. Donc aujourd'hui qui est un lieu mémoire, jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est là où il a écrit cet ouvrage immense, qui est à la fois son testament politique, puisqu'il y a consigné toute son action politique, et en même temps son récit de captivité, où là, on devine, on a toute la mesure, la dimension de l'humaniste que c'était. Bon, pour résumer, en fait, on ne le connaissait pas spécialement, peut-être Xavier plus que moi, puisque Xavier est orléanais, de même que Jean Zé. Moi, je ne le connaissais pas du tout, et rapidement, on se rend compte que c'est un modèle d'intégrité et, je dirais, qui un des hommes politiques référence, quoi, qu'on peut avoir dans l'histoire du XXe siècle, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a porté la notion de bien public hein, à son plus haut degré et qui était vraiment un grand, grand humaniste. Voilà, donc c'est une grande perte, en fait. Sa mémoire a été oubliée essentiellement parce que c'est une histoire franco-française. Un voile de pudeur a été posé sur son assassinat parce que c'était vraiment la responsabilité du régime de Vichy, beaucoup plus que celui de l'ennemi nazi. Donc ce travail de mémoire n'ayant pas été particulièrement fait en France, donc cette figure a hélas été en partie oubliée. Il a été panthéonisé en 2015. Donc il faut le savoir, la République lui a rendu l'hommage à sa mesure. Mais hormis le fait que nombre d'établissements scolaires, lycées, collèges portent son nom, c'est une figure que les Français méconnaissent absolument. Ouais. D'où l'intérêt pour nous de porter ce spectacle, effectivement. Que, voilà.
Oui, ça devient un spectacle d'intérêt public, en fait.
Absolument, c'est parce un devoir de mémoire qui est en jeu.
Oui, absolument. Quelqu'un qui a inventé quoi le vous me l'aviez dit tout à l'heure, mais le CNRS, l'ENA, les cantines à l'école, le théâtre populaire. Bon, c'est quand même. Et on ne le savait pas. Enfin, moi, personnellement,
oui,
on connaissait le nom, mais je ne sais pas qui était.
L'éducation physique aussi, les sorties scolaires, etc.
Mmh. Alors, Xavier, c'est vous qui jouez le rôle.
Oui.
Vous êtes imprégné de tout le bouquin de tout le...
Ah oui, oui, oui. Ouais. Bah oui, il a fallu que je fasse un énorme travail d'adaptation qui m'a coûté beaucoup parce que tout est très très intéressant dans le livre. Il y a plein de choses que je ne dis pas dans le spectacle.
Qu'est-ce qu'on enlève,
qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde. J'ai fait à peu près une quinzaine de versions et il fallait réduire 550 pages à une vingtaine. Et donc c'était vraiment à chaque fois des arrachements, des voilà,
fait violence.
Une grande douleur, ouais, effectivement. Et je conseille à tout le monde de lire ce livre Souvenirs et solitude parce que vraiment il y a des pages absolument remarquables tout le temps. Nous on a vraiment essayé de tirer la quintessence, mais bon, il y a vraiment beaucoup de choses très très belles dans ce livre.
Ben, il faut ajouter que c'était aussi un homme de lettres. Il avait la vocation d'être écrivain. Il était avocat de métier, mais il avait une véritable vocation d'écrivain. Il a écrit d'ailleurs deux romans policiers qui viennent de paraître en clandestinité au moment de son incarcération. Mais c'était véritablement à l'époque, finalement, un homme de culture générale, comme hélas on peut en chercher aujourd'hui vainement. C'est-à-dire que c'était l'ami des poètes, l'ami des écrivains. Il avait la porte de son bureau au ministère ouverte en permanence. Voilà.
Alors, d'après certains journaux comme La Terrasse, votre interprétation est remarquable.
Bah, écoutez,
pour rentrer dans la peau de ce personnage, déjà, qu'on ne connaît pas, on n'a pas de vidéo, non, de choses.
Il y a quelques, ouais, images d'archives alors, ouais, qui font partie du spectacle aussi, d'ailleurs, qui ont été remarquablement montées par Dominique Aru.
D'accord.
Et puis tout un travail vidéo aussi, pas seulement des images d'archives. Alors, on voit Jean Zay, mais dans ces images, elle a voulu mettre Jean Zay comme Hitchcock, comme on voit Hitchcock dans, oui, ses films, c'est-à-dire juste le voir passer, pour que justement, on n'identifie pas tellement Jean Zay, que Jean Zay soit celui qui l'interprète, c'est-à-dire moi,
bah oui,
pour le public. Voilà.
Surtout au théâtre, vaut mieux.
Voilà, oui, vaut mieux
qu'on vous identifie. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est vous, Michel, qui avez choisi
Absolument pas, c'est un projet de Xavier. Ouais, bah, je suis arrivé après. Je suis un metteur en scène embauché, on va dire, mais bon, on a déjà travaillé suffisamment ensemble pour que
vous avez
l'évidence.
Vous avez découvert le texte. Voilà. Vous avez trouvé que c'était une injustice, qu'il fallait. C'est quelque chose comme ça.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour être tout à fait précis, c'est une amie commune de Michel et moi qui m'a mis le texte entre les mains en me disant s'il y a quelque chose à faire au théâtre avec ce personnage, c'est toi qui dois le faire.
Ouais.
Et puis, il y a eu d'autres concours de circonstances, d'autres hasards qui font que quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis aperçu que la préface, qui était très intéressante, qui annonçait un livre passionnant, était écrite par un certain Antoine Pro, qui en fait était un ami de mes parents, parce que mes parents sont orléanais aussi. Donc lui, c'est un grand historien, je ne savais pas du tout qu'il était spécialiste de Jean Zay. Et puis du coup, je me suis plongé dans le livre, et là, j'ai découvert un homme absolument extraordinaire, qui à la fois a fait toutes ces réformes, mais qui se fait aussi balloter par le régime de Vichy d'une prison à l'autre jusqu'à tomber à Rion, qui croit qu'il va être déporté en Guyane, à l'île du diable. Il devait être déporté comme l'avait été Dreyfus. Vous imaginez être arraché de son pays, de sa famille, de tout le monde, sans limite de temps, sans limite de durée. Voilà comment était le verdict. Donc c'est un homme qui ne peut pas, même pas se raccrocher à une date de sortie, puisqu'il n'y en a pas. C'est un homme qui peut se raccrocher à quoi ? À simplement sa force intérieure. Et là, on trouve un Jean Zay absolument remarquable qui va organiser ses journées de telle façon qu'il travaille sans arrêt, qu'il lise, qu'il écrive, qu'il ne laisse pas passer une once de désespoir ou de désœuvrement dans cette journée qui pourrait le perdre. Donc c'est quelqu'un qui va chercher sa liberté intérieure en prison. Moi, j'ai rencontré un homme absolument extraordinaire en tout point. Et donc, l'évidence, c'était d'essayer de mettre sur un plateau, face à un public, cet homme aussi formidable.
Ce qui est impressionnant, c'est la résonance avec l'époque.
Ah oui, vous
pouvez
le dire.
Ça nous parle, là, ce que,
bien entendu.
Ce que
oui, les années 30 résonnent étrangement aujourd'hui, ça c'est clair. Et tout ce qu'il annonce, c'est ça aussi qui est passionnant, parce que c'est disons un reportage, un compte-rendu de première main de celui qui était à l'œuvre dans les années 30 pour bâtir une république, en tout cas telle qu'aujourd'hui, dont on pourrait rêver aujourd'hui à nouveau. Et toutes les dérives, tous les périls qui s'annonçaient, il les a perçus. Il a été extrêmement clairvoyant par rapport à ça, notamment par rapport à la question de la démilitarisation. Lui, il était contre. Il a bien vu, compris que le danger nazi était suffisamment important pour que la France ne trouve pas les moyens de la riposte. Son comportement, enfin son attitude pendant la guerre d'Espagne a été absolument exemplaire. Donc c'est véritablement quelqu'un. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il avait 32 ans, hein, faut le savoir, faut se le rappeler. Il a eu quasiment tout juste, hein, sur la lecture de l'histoire de l'époque. Donc l'enseignement qu'il nous donne aujourd'hui nous permet de lire notre époque aussi avec une netteté, une précision tout à fait impressionnante.
Et puis je veux ajouter aussi qu'il y a eu un concours, un faisceau à ce moment-là, pendant le Front populaire. Il y a eu toute une convergence de personnes, de personnages qui ont œuvré à toutes les grandes réformes du Front populaire. Et Léon Blum a eu le génie de mettre Jean Zay à la tête du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, parce que Jean Zay militait pour l'émancipation du citoyen par l'éducation et par la culture. Donc il était absolument à sa place à cet endroit-là.
Parfait, bah écoutez, ça donne vraiment envie d'aller découvrir. Ah oui, voilà, vous m'avez fait découvrir, je connaissais même pas, on connaissait le nom, mais on ne savait pas qui c'est.
En fait.
Donc, je pense que cette pièce est, comme je vous le disais, d'intérêt public. Je donne rendez-vous à nos auditeurs jusqu'au 29 juillet à 11h40 à l'Épicène. Relâche le lundi pour découvrir Jean Zay, l'homme complet, avec Xavier Béja pour l'interprétation et Michel Cochet pour la mise en scène. Merci à vous deux.
Merci beaucoup. Merci.